Bonjour Aïline, bonjour à tous. Bienvenue jusqu'à 13h30 au Forum de l'Arc à Moutier, au plus grand salon des moyens de production microtechnique, le CIAMS. Aujourd'hui, une émission spéciale nous attend en compagnie de nombreux invités qui vont agrémenter notre prochaine demi-heure avec en invité d'honneur le secrétaire d'État à la recherche, à la formation et à l'innovation, Mauro Dell'Ambrogio, Lucien Hirschi, directeur de l'entreprise ZEDAX à La Neuville, Martin Vetterli, président de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Mais pour commencer, nous sommes en présence de Pierre-Yves Collère, directeur général du CIAMS, ainsi que de Natacha Mengoli, notre journaliste qui va nous présenter notre table ronde du jour avec la digitalisation et les défis de l'industrie 4.0.
Bonjour à tous, bonjour Monsieur Collère.
Bonjour.
Le salon des moyens de production microtechnique a à nouveau fait le plein d'exposants pour cette 16e édition. Qu'est-ce qui fait son succès auprès des spécialistes de la branche?
Alors c'est difficile de dire, il y a un élément qui fait le succès du CIAMS. Par contre, je pense que c'est une conjonction de tout un tas de paramètres, paramètres d'organisation, paramètres d'ambiance. Effectivement, c'est un salon très convivial où les gens peuvent venir avec un petit stand, se présenter de manière efficace. Et surtout, c'est un salon qui permet à tout le monde de vraiment mettre en valeur leurs compétences, compétences exceptionnelles dans cette région.
Alors pour cette nouvelle édition, vous avez mis en place plusieurs nouveautés. Quelles sont les innovations pour cette QV 2018?
Alors effectivement, même un salon, on peut innover. Nous avons innové pas mal en termes de services, tant pour les exposants que pour les visiteurs, notamment en termes de restauration, où nous avons mis en place quelque chose de complètement différent, parce que plusieurs de nos exposants, la dernière fois, nous avaient dit « oui, ce serait bien s'il pouvait y avoir, par exemple, un restaurant VIP, des choses comme ça ». Et puis, dans la mesure du possible, on essaye vraiment d'écouter les exposants et de répondre à leurs besoins. Une autre évolution est toute la partie informatique des entrées, puisque les clients s'enregistrent en ligne et ensuite on peut scanner leur billet à l'entrée. Ça, c'était déjà l'année passée. Par contre, maintenant, chaque exposant peut scanner les visiteurs sur son stand et ainsi, à la fin du salon, avoir une liste de toutes les données des personnes qui l'ont visité et pouvoir avoir ainsi des rapports de visite très simplifiés.
Vous l'avez dit, vous voulez vraiment être à l'écoute de vos exposants, assurer leur confort. Finalement, c'est une façon de les fidéliser au CIAMS.
Oui, on espère ça. Mais le but, c'est pas vraiment de travailler pour qu'ils soient contents, pour qu'ils restent. Oui, dans l'absolu. Mais finalement, ce qu'on veut, c'est vraiment offrir une prestation qui leur permette de se dire, ben vraiment, on est bien ici. C'est convivial. On vient faire des affaires. Et finalement, il faut qu'on revienne au CIAMS en 2020. Nous avons donné un formulaire d'intention déjà à nos exposants cette année et près d'une quarantaine d'exposants nous ont déjà dit, alors que le CIAMS vient de commencer, qu'ils seraient là en 2020. Ils nous ont dit on va revenir, on veut le même stand. Donc c'est de bon augure pour la suite et je les remercie vraiment.
Une volonté donc de faire revenir les exposants, mais est-ce qu'il y a également une volonté d'en attirer de nouveaux, de faire grandir encore davantage ce CIAMS?
Pas du tout, puisque les locaux sont à la taille maximale, plus ou moins. Et puis, nous avons 450 exposants avec 90% de fidèles. Et pour nous, c'est vraiment le plus important. C'est que les gens qui viennent et qui reviennent continuent d'être bien traités. Ça ne nous sert à rien de venir trop grand. Aussi, en termes de visiteurs, si le salon est trop grand, ça ne devient pas très intéressant de le visiter. Là, vous pouvez venir. En un jour, vous faites le tour. Vous avez l'ensemble de la prestation qui est présentée. Et puis, vraiment, pour nous, c'est une taille qui est assez idéale.
Pierre-Yves Collère, merci pour ces explications. On rappelle que vous êtes le directeur du CIAMS qui se tient toute la semaine ici à Moutier. On poursuit la visite de ce salon des moyens de production microtechnique dans un instant en compagnie du secrétaire d'État Mauro Dell'Ambrogio.
Il te fait perdre pied, la tête et les pédales. Ton inconnu est un pavé dans la mare des jours qui passent. Ses lèvres bien ajustées coulent des accents de bibliothèque à croire qu'il ferait tout ou presque mieux que ton mec. Ton mec. Neuf comme un nouveau lycée, comme le miroir des premières fois. Ton inconnu t'a remarqué dans la couleur de ton choix, dans les tissus les plus légers, dans ton uniforme de nymphette, celui qu'il y a quelques années aurait fait chavirer. Ton mec. Pas celui des fins de mois, ton inconnu être ni de sport le dimanche soir. Alors le sourire aux yeux et les larmes aux lèvres, tu lui donnes un bout de toi, tu abolis les privilèges de ton mec. Et le goût de l'amertume, de la lumière bon marché dans ses mauvaises habitudes. Tu observes ton garde-côte, alors seulement tu réalises que ton mec est l'inconnu d'une autre.
Nous sommes de retour en direct du Forum de l'Arc ici à Moutier pour la suite de notre table ronde en direct donc du SIAMS. Nous sommes à présent en compagnie du secrétaire d'État à la recherche, à la formation et à l'innovation, Mauro De Lambrugio. Bonjour.
Bonjour.
À vos côtés, Lucien Hirschi, fondateur et directeur de ZAC-CESA à La Neuville. Bonjour.
Bonjour.
Je vous propose que l'on aborde une thématique importante pour l'industrie de nos jours, à savoir la numérisation de la branche. Monsieur De Lambrugio, selon vous, que représente le tournant du numérique dans le monde industriel?
Bon, c'est un défi majeur parce que du processus de production jusqu'aux relations d'affaires entre consommateurs, producteurs, on voit ce qui se passe dans d'autres branches, dans les services aussi. Évidemment, l'industrie qui est déjà très poussée au niveau de la digitalisation va avoir, et puis qu'elle est contrainte à une concurrence internationale plus que d'autres branches, la nécessité d'être absolument à la page.
Mm-hmm. C'est un défi majeur, mais finalement, qu'est-ce que le secteur industriel, en particulier le domaine des microtechniques, peut tirer comme avantage de cette révolution, selon vous?
Bon, le fait d'être déjà dans cette réalité, la Suisse a une bonne tradition. En particulier, j'ai été impressionné ici par le lien entre la longue tradition de long cours avec une attitude à l'innovation continue qui donne la meilleure perspective pour le futur aussi.
Sur le terrain, finalement, comment prend forme la numérisation dans le secteur des microtechniques chez vous, par exemple, Lucien Hirschi, chez ZEDAX?
Alors nous, disons, on existe grâce à la numérisation, disons, la digitalisation. Notre métier, en fait, est basé à la base, en fait, pour produire des pièces, on a besoin de fichiers informatiques, donc de modélisation en trois dimensions. Donc on est en plein dedans et puis ça nous permet d'offrir des pièces à nos clients qui ne pourraient pas être faites aussi rapidement peut-être. Donc on fait gagner du temps, on fait gagner peut-être aussi, on a une liberté de forme complète, donc ça permet à nos clients d'innover aussi plus rapidement peut-être.
Donc vous êtes plongé dans le bain depuis le début si on peut dire,
oui.
Mais au fil des 10 dernières années, vous avez quand même remarqué que vous avez dû adapter certaines choses dans votre manière de travailler, des changements qui sont intervenus?
Je pense pas, non. C'est-à-dire que dès le départ, on avait cet objectif d'offrir un service nouveau. Donc en fait, ce qui a surtout évolué, c'est la technologie. C'est-à-dire nos machines ont évolué, la technologie, la précision, les matériaux surtout. Donc ça nous a permis d'ouvrir aussi notre palette de clients et puis de services en fait.
Monsieur De Lambrugio, vous avez parlé tout à l'heure de ces défis de la digitalisation. Pour les entreprises du secteur de l'horlogerie et de la machine-outil qui sont très très présents dans l'arc jurassien, quels sont ces défis majeurs?
Bon, je représente l'administration fédérale, donc la question est toujours quel est le rôle de l'État par rapport au rôle des entrepreneurs et de l'économie. Donc nous n'avons pas de politique industrielle en Suisse, donc pour nous il s'agit d'offrir les meilleures conditions cadres. Et celles dont je m'occupe, dont la formation, la recherche, sont des éléments clés pour permettre après aux entrepreneurs et à tous ceux qui travaillent dans ce domaine de répondre aux défis actuels.
Mm-hmm. Monsieur Hirschi chez ZEDAX. Vous avez dû parfois justement les surmonter, ces défis. Est-ce qu'il y a eu des écueils qui sont parfois venus sur votre route ou bien tout se passe pour le mieux?
Écoutez, ça se passe assez bien. Disons, les écueils, c'est que depuis 2005, quand on a commencé, on a déjà subi deux crises, disons. Donc, il faut les surmonter. C'est vrai qu'on est dépendant, je pense qu'on est beaucoup dépendant du secteur horloger. Nous, on travaille beaucoup avec des sous-traitants horlogers, pas uniquement avec des marques. Donc, c'est vrai que ça a été des moments difficiles. C'est-à-dire que quand vous êtes en pleine croissance, c'est des coups d'arrêt comme ça qui freinent un tout petit peu la croissance. Mais voilà, il faut s'adapter. Et puis c'est comme ça, quoi.
Il y a plus d'avantages que de désavantages à la numérisation, quand même.
Alors, pour moi, il n'y a que des avantages, en fait, hein, parce que sinon, on n'existerait pas.
Les avantages, peut-être qu'ils sont clairs, mais peut-être pas pour tout le monde. C'est vraiment un gain de temps.
Oui, je donne peut-être un exemple. Volontiers. On parlait de l'horlogerie maintenant. C'est-à-dire que nous, on est capable de faire... Alors, on reste à faire des prototypes en plastique au niveau esthétique, enfin, du design, etc. Mais ça permet, par exemple, à des designers de nous envoyer un fichier le lundi et d'avoir une pièce le mercredi dans la main pour pouvoir valider quelque chose de concret, pas seulement sur des plans.
Cette capacité d'adaptation aux nouvelles technologies est souvent quand même liée à la taille de l'entreprise. Pour certaines entités de petite taille, ça peut être plus difficile à attraper le train de l'industrie 4.0. Comment on pourrait les aider, ces petites structures, à amorcer ce virage, monsieur Dell'Ambrogio?
La Confédération dispose de certains instruments, par exemple InnoSuisse, ce qui s'appelait avant la CTI, qui offre la possibilité de développer de nouveaux produits ou de nouvelles façons de produire en coopération avec des centres de recherche ou des hautes écoles, avec des projets qui sont financés aussi par la main publique en partie. Donc c'est le soutien à l'innovation qui en principe en Suisse n'est pas fait comme ailleurs dans le monde en utilisant l'argent du contribuable directement dans les entreprises, mais en offrant la possibilité aux entreprises, surtout aux petites et moyennes entreprises, d'avoir un soutien par des chercheurs qui travaillent dans des institutions de recherche pour développer leurs produits.
Est-ce que ces petites entreprises, elles ont le réflexe de demander de l'aide? Là, à ce niveau-là, il faudrait encore les encourager à solliciter, vous le dites, ce genre de programme?
Vous savez, en Suisse, l'industrie qui n'est pas capable d'être compétitive au niveau international a très peu possibilité de survivre, au fond. Donc, soit on a soi-même les moyens, comme c'est plutôt le cas des grandes entreprises, on en a aussi en Suisse, dans le domaine de manufacturing, mais les petites moyennes, je crois qu'elles utilisent très souvent des coopérations avec les HES locales ou avec les écoles polytechniques.
Lucien Hirschi, vous avez dit que vous êtes un expert en la matière, mais vous pensez que le monde politique devrait davantage épauler les entrepreneurs dans cette transition vers l'industrie 4.0, les petites structures qui ont de la peine à franchir ce pas?
Écoutez, je pense que c'est un peu difficile. Enfin, à mon avis, chaque entrepreneur est responsable de ses activités. Alors, effectivement, quand il y a les conditions cadres qui sont là, eh ben, ça aide, effectivement. Mais maintenant, je crois que... Voilà, moi je suis assez satisfait, disons, de tout ce qu'on a pu bénéficier, bien qu'on s'est toujours débrouillé un peu tout seul, mais...
Alors un mot peut-être pour convaincre les chefs d'entreprise qui sont complètement effrayés par ce 4.0.
Il faut qu'ils aillent voir comment ça... Et puis surtout aller chercher les avantages et puis trouver des solutions, parce qu'il y en a quand même beaucoup, je pense. Moi, je ne suis pas un expert disons, dans la microtechnique, mais en tout cas par rapport à ce que je vois, je pense qu'il faut être curieux et tout. Alors effectivement, ça demande de l'énergie, du temps, mais il faut être curieux. Maintenant, on a beaucoup de moyens pour, avec Internet et tout ça, pour se renseigner. Et puis, je pense que ça vaut la peine de faire le pas, de toute façon. Malgré tout le talent qu'ils ont au niveau d'usinage et choses comme ça, de la précision, il n'y a rien qui est remis en cause, mais je pense que ça peut être une aide énorme, quoi, quand même.
Lucien Hirschi, vous êtes donc à la tête de ZEDAX, c'est ça, basé à La Neuville et présent ici, bien sûr, au SIAMS. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde.
Merci à vous.
Et quant à nous, on continue la discussion dans un instant avec vous, Mauro Dell'Ambrogio, et un nouvel invité en la personne de Martin Vetterli, président de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. À tout de suite.
Catch, don't need your foul play. Now you have met your match.
Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes toujours en direct du SIAMS, Salon des moyens de production microtechnique, ici au Forum de l'Arc à Moutier. Et nous sommes toujours en compagnie du secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation, Mauro de Lambrogio. Et il nous a rejoint pour cette troisième et dernière partie de notre table ronde, Martin Vetterli, président de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Bonjour.
Bonjour.
On a parlé tout à l'heure des avantages, mais aussi des défis de l'industrie 4.0. Dans les murs de l'EPFL, comment est-ce que les formations s'adaptent aux nouveaux modèles de production finalement?
Alors la digitalisation et la transformation numérique en général, donc ce qu'on appelle parfois l'industrie 4.0, demande des savoir-faire de nos étudiants qui évidemment sont ceux du 21e siècle, qui ont à voir avec les bases de l'informatique, mais aussi leurs applications dans différents domaines des sciences de l'ingénieur, des sciences en général.
Est-ce que vous avez remarqué que la branche de la microtechnique qui nous intéresse aujourd'hui est plus concernée finalement par cette mise en réseau, par cette robotisation que d'autres branches, ou finalement cette révolution, c'est vraiment une vague qui touche toutes les disciplines de l'EPFL?
Alors ça touche toutes les disciplines, mais quand je pense à certaines autres disciplines qui en fait n'ont peut-être pas forcément un métier de base aussi fort et aussi solide que la microtechnique, qui finalement est basée sur un savoir-faire technique très très pointu, sur la maîtrise des matériaux, sur la maîtrise du design, etc., qui est transformé, mais in fine, vous voulez un objet physique à la fin, que ce soit une superbe montre ou un objet dans le médical, etc., où il y a un objet physique. Donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est simplement ajouter cette couche de numérisation ou de digitalisation par-dessus un savoir-faire exceptionnel qu'on a ici dans l'arc jurassien.
Monsieur de Lambrogio, on l'a dit tout à l'heure, l'industrie ne doit pas rater ce virage de la numérisation. Selon vous, quel est le rôle des structures de formation comme l'EPFL? Quel est le rôle de ces structures dans cette transition?
Bon, déjà en Suisse, on dispose de deux voies de formation très complémentaires, les deux essentielles, l'une à travers le lycée, l'école polytechnique, l'autre celle de la formation professionnelle, l'apprentissage, les HES après. Donc on a une flexibilité pour acheminer, si vous voulez, tout talent dans ce domaine, pour selon aussi les changements conjoncturels, les besoins. Le système de formation suisse est très adaptatif et répond très bien à ce développement de besoins.
Comment se positionne la Suisse dans cette transition du 4.0? Elle fait figure de bon élève?
On a toutes les semaines des délégations internationales qui viennent nous visiter. Elles sont impressionnées soit par l'autre qualité des écoles comme l'école polytechnique, mais en même temps très intéressées aussi à notre système de formation professionnelle. Donc ça montre qu'au fond, on est souvent un modèle au niveau international.
Au niveau de la formation, Martin Vetterli, est-ce que les établissements suisses arrivent toujours à suivre la cadence, à former de manière adaptée les ingénieurs qui vont intervenir dans ces domaines assez rapidement finalement? La technologie va si vite.
J'espère bien que oui. C'est pour ça que dans les écoles polytechniques, mais aussi d'autres institutions, on fait de la recherche au meilleur niveau mondial. Donc on reste à la page pour surtout pas rater des virages scientifiques ou technologiques. Ça, c'est essentiel. C'est pas bon marché, mais c'est là où le contribuable suisse a investi, avec succès à mon avis, puisque les écoles polytechniques, par exemple, se retrouvent très souvent en haut du pavé dans les rankings. Avec cette recherche, on peut influencer la formation et aussi avoir la meilleure formation pour les ingénieurs, les scientifiques qui sortent de chez nous et d'autres écoles. Et comme l'a dit le secrétaire d'État, le système de formation duale, avec les ponts qui existent entre les différentes branches, permettent en fait à tout un chacun, s'il est intéressé, d'avoir accès à des formations, à mon avis, du meilleur niveau mondial.
L'EPFL, c'est quelques 350 professeurs, 10 000 étudiants. Sur votre campus, quelle place prennent les métiers, les filières techniques, microtechniques en particulier, dans le choix de carrière des jeunes? On sait qu'ici, dans l'arc jurassien, on a un petit peu de la peine à trouver parfois du personnel qualifié.
Alors actuellement, la section qui est la plus populaire à l'EPFL, c'est la section mécanique avec, je crois, 350 ou 400 étudiants en première année. La microtechnique vient juste derrière, donc c'est vraiment parmi les formations d'ingénieurs de loin les plus attractives, parce que si vous avez un cœur d'ingénieur, la microtechnique, construire des objets vraiment de super haute qualité avec l'informatique qui va autour, ça c'est vraiment le métier d'ingénieur.
Si on souhaite encore, Mauro Dell'Ambrogio, valoriser davantage ces branches techniques, sur quel axe il faudrait travailler selon vous ?
Bon, on travaille beaucoup à tous les niveaux, on pourrait dire même du jardin d'enfance pour surtout chez les filles, parce que c'est un peu la question métier d'ingénieur qu'il a fallu des décennies en Suisse aussi pour faire comprendre que ça peut être intéressant pour les filles aussi dans les intérêts pour les sciences naturelles, la technique, les mathématiques. Mais il faut toujours souligner qu'au fond, le choix individuel n'est pas seulement sur l'intérêt plus ou moins pour les maths à l'école, c'est aussi la perspective d'emploi. Donc je crois que le fait qu'un secteur offre la possibilité de trouver de l'emploi qui motive les gens aussi à s'engager dans certaines filières, donc c'est pas seulement le succès de notre économie qui montre le succès de nos stratégies, mais aussi le fait qu'on a un chômage très bas. Et donc à la fin, la plupart des jeunes et aussi après des gens trouvent des perspectives dans l'économie de nos pays.
Martin Wetterli, vos étudiants en microtechnique le disent sur le site de l'EPFL, ce qui leur plaît dans ce secteur, c'est avant tout la diversité et cette possibilité de se diriger ensuite vers la robotique, le spatial, l'horlogerie ou même le médical. Cette richesse, est-ce que ça pourrait pas être justement l'élément phare à mettre en avant pour convaincre les jeunes à s'engager dans cette voie ?
Alors, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant, et avec un certain succès. Je pense qu'il y a encore du potentiel, et comme Mauro Dell'Ambrogio l'a dit, il y a un très grand potentiel du côté des filles, que nous perdons malheureusement relativement tôt dans les filières, je dirais, scientifiques. Donc elles sont moins motivées, je dirais, à suivre la section gymnasiale, qui est celle qui est naturelle, qui sont les maths et les physiques. C'est une question de culture, d'histoire. C'est quelque chose sur lequel on travaille, on interagit avec les gymnases. On est aussi dans un programme phare qui va être annoncé pour l'introduction de la robotique très tôt dans les écoles. J'espère que ça motivera aussi des filles à suivre les filières techniques.
Cette diversité, cette richesse de la microtechnique est présente évidemment ici au SIAMS à Moutier avec ses 450 exposants. Mauro Dell'Ambrogio, pour clore cette table ronde, que représente cet événement pour vous en tant que secrétaire d'État à la recherche et à l'innovation notamment ?
Mais honnêtement, encore hier, je ne savais pas de devoir venir ici. C'était mon chef, le conseiller fédéral Johann Schneider-Hammann, qui devait représenter la Confédération, mais il est au lit à cause d'une grippe dont je le remplace. Mais pour moi, c'était une surprise très enthousiasmante de voir la richesse de contenu qu'on a ici. Je suis bien content d'être venu et d'avoir appris beaucoup aujourd'hui.
Une belle découverte, donc.
Absolument, oui.
Mauro Dell'Ambrogio, merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde. Martin Wetterli, merci également à vous d'avoir pris part à cette discussion en direct du SIAMS ici à Moutier. Séverine, quel sera le sujet de notre table ronde de demain ?
Eh bien, Natacha, demain, de 13h à 13h30, nous vous donnons rendez-vous sur nos ondes en direct du SIAMS à Moutier avec les conseillers d'État du Jura et de Neuchâtel. Une nouvelle table ronde vous sera proposée avec la thématique suivante : l'arc jurassien et son réseau industriel. Comment promouvoir les collaborations intercantonales dans le domaine ? Nous vous rappelons également que le SIAMS, Salon des moyens de production microtechnique, se tient jusqu'à vendredi au Forum de l'Arc à Moutier. Et pour toutes les infos pratiques, n'hésitez pas à consulter le site internet siams.ch. Merci Natacha, merci Aïline. À demain pour de nouvelles découvertes en direct du SIAMS à Moutier.